Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Depuis quelques jours, on le sait, bon gré mal gré, Donald Trump quittera la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Ce jour-là, au grand soulagement des démocrates du monde entier, un nouveau président occupera le bureau ovale. Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont en effet remporté la présidentielle américaine. Ils vont tenter de réparer la démocratie américaine bien mal en point. Pour cela, il faudra aussi réparer l'économie, réduire les inégalités sociales et raciales, relancer une politique environnementale. D'immenses défis et nous verrons comment le président élu Joe Biden va s'y prendre avec les deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Véronique Rich-Flores.
Bonjour.
Véronique Rich-Flores, conditions sanitaires obligent, vous êtes au téléphone, vous êtes économiste indépendante, vous fournissez des analyses sur le contexte économique international aux nombreuses entreprises qui sont vos clientes. Avec vous dans cette émission, Jean-Baptiste Velu, bonjour.
Bonjour.
Jean-Baptiste Velu, vous êtes également au téléphone, malheureusement, vous êtes maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'économie américaine. Vous avez signé tout récemment un chapitre intitulé « Les États-Unis contre la mondialisation, le bilan du nationalisme économique » dans un ouvrage collectif coordonné par votre collègue Loric Henneton. Le titre de ce livre, « Le rêve américain, l'épreuve de la présidence Trump » est publié aux éditions Vendémiaire. Et puis bien sûr, dans cette émission, des reportages. Nous retrouverons Lubna Anaki à New York, Carlotta Amorteo à Kansas City dans le Missouri et Marie Normand à Las Vegas dans le Nevada.
Now this campaign is over.
Maintenant, la campagne est terminée.
What is the will of the people?
Quelle est la volonté du peuple?
What is our mandate?
Quel est notre mandat? Je crois que c'est ça. Les Américains font appel à nous pour guider les forces de la décence, de la justice, pour canaliser les forces de la science, de l'espoir, dans les grandes batailles de notre temps. La bataille pour contrôler le virus, le combat pour la prospérité, pour garantir l'assurance médicale de vos familles, la bataille pour arriver à la justice raciale et éliminer le racisme systémique de notre pays. La bataille pour sauver notre planète, en contrôlant le climat, la bataille pour défendre la démocratie. Les amis, notre travail commence par le contrôle du Covid. Nous ne pouvons pas réparer l'économie et restaurer la vitalité avant que l'épidémie ne soit sous contrôle.
C'était donc samedi 8 novembre dernier, au soir de sa victoire à Wilmington, son fief Joe Biden se présentait devant ses supporters et devant les caméras de télévision. Un énorme chantier l'attend, mais sans attendre dès le résultat annoncé dans la sphère qui nous occupe dans cette émission, la première conséquence de l'élection de Joe Biden, cela a été la hausse des marchés boursiers et d'abord principalement aux États-Unis. Pourquoi est-ce que Wall Street se réjouit de voir Biden à la Maison-Blanche, Véronique Rich-Flores?
C'est vrai que ça peut paraître assez surprenant parce que finalement, il y a peu de temps, finalement, il y a quelques mois, pas pire opposant que Joe Biden potentiellement à la présidence. En réalité, les démocrates arrivent avec un plan de relance à la fois immédiat pour venir contrer l'épidémie actuelle et un très grand plan de relance structurel. Et je crois que les marchés ont pris conscience effectivement de la nécessité de soutenir l'activité à la fois sur le front d'un point de vue immédiat et y compris de manière beaucoup plus structurelle. Donc, vous savez, les marchés sont assez, assez simplistes hein, dans leur fonctionnement. Vous promettez des milliards de dollars et en général, ça fonctionne pas trop mal. Donc voilà dans quel état d'esprit sont les marchés, avec l'espoir quand même que ce plan de relance permette de rehausser le niveau de croissance potentiel de l'économie américaine qui en fait a beaucoup, s'est beaucoup réduit ces dernières années.
Est-ce que les traders, les financiers ont beaucoup contribué à la campagne des démocrates? Est-ce que ces milieux-là ont beaucoup donné d'argent, Jean-Baptiste Velu?
Oui, écoutez, je crois que Wall Street avait misé plutôt sur Joe Biden que Donald Trump, puisque ils ont apporté 4 fois plus de donations à la campagne démocrate qu'à la campagne républicaine, selon le Center for Responsive Politics, qui est un petit peu l'institution de référence sur tout ce qui est financement des campagnes.
Pourquoi est-ce que ces gens-là misent sur Biden plutôt que sur Trump, qui est plus ou moins un des leurs ?
Effectivement, ça peut paraître paradoxal dans la mesure où Joe Biden promet d'imposer les salaires les plus élevés. Ceci étant dit, je crois que l'un des mots qu'il faut évoquer et qu'il paraît central, c'est la question de la stabilité. Vous savez, Donald Trump, on l'a vu pendant 4 ans, fait de l'instabilité et de l'imprévisibilité une manière de gouverner. Alors, que ça soit pour les guerres commerciales, que ça soit pour les négociations avec le Congrès et les démocrates. Donc Wall Street se réjouit d'avoir un peu plus de stabilité avec une administration qui sera loin de la gauche de Bernie Sanders.
Véronique Riflores, la conséquence, c'est qu'on va retrouver, comme d'habitude, beaucoup de financiers, de patrons de banque, de traders, etc., dans les rouages de l'administration Biden à des postes clés.
Tout est dans le beaucoup dans votre question.
Ouais.
En tout cas, certainement, effectivement, une représentation assez importante. En même temps, ce qu'on voit émerger, ce sont quand même beaucoup de nouveaux visages, de visages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, qui sont effectivement des spécialistes de l'économie et de la société américaine. Donc, je pense que finalement, on aura probablement une assez bonne mixité dans cet environnement.
Quels sont les noms auxquels vous pensez, auxquels vous faites allusion? Quels sont ces talents-là, ces personnalités?
Vous avez dans la société civile, des représentants de la société civile américaine qui émergent, dont on avait presque oublié l'existence, ou des universitaires reconnus. Je pense qu'il y a quand même une diversité qui se profile. Alors, c'était également relativement le cas, finalement, sous la présidence de Donald Trump, avec néanmoins un positionnement politique et sociologique, si je peux dire, très différent, bien évidemment, mais et également une représentation de la sphère financière ou des représentants de la sphère financière beaucoup très importante. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on aura quelque chose d'assez équilibré, qui est plutôt rassurant et qui devrait changer un petit peu, très certainement d'ailleurs, la manière de mener les affaires du pays.
Jean-Baptiste Velu, c'est votre point de vue aussi? On va retrouver certains de vos confrères?
Je dirais que je nuancerai un petit peu la question de la diversité. Il me semble qu'on retombe quand même dans les conseillers de l'équipe Clinton, d'Obama, comme Jason Furman, Gene Sperling, qui est quand même un des les pivots de l'équipe Clinton, qui après a travaillé sous l'équipe Obama. Jared Bernstein, donc qui était déjà le conseiller économique du vice-président Joe Biden sous Obama, mais qui a joué un rôle clé dans l'administration Obama. Heather Boushey, qui était quand même aussi une conseillère de Hillary Clinton. Donc je pense qu'on ne réinvente pas une équipe qui, à mon avis, apporte aussi de la stabilité, et c'est ce qui rassure aussi les marchés, à mon avis. Et on le voit de la même manière en ce qui concerne la politique étrangère, où les noms qui circulent sont là encore issus, je dirais, de l'équipe Obama.
Les marchés sont donc optimistes, on en parle depuis le début de cette émission, ils sont satisfaits de cette apparente stabilité qui vient, mais pour les marchands, les commerçants, c'est encore l'inquiétude malgré l'élection de Biden. Exemple du contraste saisissant entre deux mondes, deux univers économiques, avec ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Lumna Naki à New York, avec d'abord Jean Jugeux, ancien directeur exécutif de la Bourse de Wall Street, pour lequel l'arrivée de Joe Biden signifie, comme pour vous, Jean-Baptiste Velu, le retour d'une stabilité favorable au marché financier.
C'est la fin d'une grande incertitude, d'une présidence complètement erratique qui prenait des décisions totalement contradictoires et donc on ne savait pas à quoi s'attendre. Joe Biden est un homme cohérent. Sa politique va être articulée et donc prévisible, et donc on va pouvoir se positionner. Le marché est content de voir revenir un président.
It was sort of a slow...
C'était comme une vague de soulagement. Ça me permet d'espérer que les choses vont changer pour le mieux.
Lexi Beach se souvient de sa réaction à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. Cette New-Yorkaise tient une librairie depuis 8 ans et les derniers mois ont été difficiles pour elle et son commerce.
C'est difficile ces jours-ci d'avoir un petit commerce parce que quel que soit ce que vous vendez, c'est dur. On est tous dans des situations très difficiles.
L'arrivée de la pandémie et les restrictions sanitaires ont durement frappé les petits commerces comme celui de Lexi. Les librairies, mais aussi les salons de coiffure, les laveries, les petits bars ou restaurants de quartier. Sur les 240 000 commerces que compte New York, 3 000 ont déjà fermé. Les propriétaires sont pris à la gorge. Ils craignent une seconde vague et attendent beaucoup de Joe Biden.
Il y a quelques semaines, je me disais, si jamais Trump est réélu, c'est la garantie qu'il n'y aura toujours pas de plan national de gestion du Covid. Et je ne sais pas combien de temps encore ma librairie peut survivre sans une amélioration de la stratégie nationale. Parce que sinon, je ne serais pas surprise qu'on ait un nouveau confinement.
À New York, les petites entreprises représentent 98% des employeurs et assurent une activité à la moitié des travailleurs de la ville. Une nouvelle enveloppe d'aide d'urgence est bien en discussion au Congrès, mais les négociations sont au point mort et surtout, Donald Trump menace de ne pas inclure les villes démocrates comme New York, avec qui les relations du milliardaire sont tendues. L'arrivée de Joe Biden au pouvoir laisse donc espérer un changement de politique vis-à-vis de la ville, comme l'explique Elana Nat de la Chambre de commerce de New York.
On espère que la relation entre Biden et New York sera plus forte et tout le monde espère qu'il y aura une aide d'urgence pour la ville et que les commerces et entreprises bénéficieront d'une enveloppe.
Si les commerçants et petits patrons sont contents de ce changement d'administration, c'est le cas également des grandes entreprises et des marchés financiers. Après l'annonce de la victoire de Joe Biden, la bourse de New York a ouvert avec des chiffres records en ces temps de crise. Quelle que soit la politique de Joe Biden pour relancer l'économie, tout dépendra de si les Républicains gardent la majorité au Sénat, ils pourraient beaucoup limiter le champ d'action du nouveau président.
Un reportage signé Lumna Anaki à New York, Véronique Richflores, Jean-Baptiste Velu. Bon, il y a cette question de la majorité démocrate ou républicaine au Sénat, dont dépendent beaucoup de choses. Est-ce qu'on va devoir attendre le 20 janvier prochain ou le 21 pour avoir un plan de soutien digne de ce nom pour l'économie américaine? Est-ce que ces petits commerçants new-yorkais, ces libraires et autres vont devoir attendre le 20 janvier prochain, le 21 janvier, pour bénéficier d'un soutien? Quelle est votre analyse?
Bon, c'est la grande question et c'est ce qui est dramatique. Écoutez, Mitch McConnell, qui est le chef de la majorité républicaine au Sénat, s'est montré plus favorable aux négociations depuis quelques jours. Ceci étant dit, on a vu que la logique partisane continue à présider sur son mode de gouvernance. On a vu les républicains, alors que le pays demandait... l'économie demandait un deuxième plan de relance avec une augmentation du chômage. Les républicains ont préféré passer en force la confirmation de la candidate à la Cour suprême, Amy Coney Barrett. Donc, vous voyez, ils ont ignoré, je dirais, la situation économique du pays. Il me semble pas qu'ils vont donner la priorité à des questions qu'ils jugent partisanes, hein, en dépit de les difficultés que traverse l'économie, avant d'avoir plus de certitude sur l'issue donc de cette campagne électorale.
Véronique Richflores, il y aura rien avant le 20 janvier, vous pensez?
Je pense que le risque est important, effectivement, que nous n'ayons rien. Les chances ne sont pas totalement nul, hein, parce qu'effectivement, tout le monde va voir la situation se détériorer très rapidement, probablement dans les semaines à venir, hein, avec le regain d'épidémie. Mais compte tenu, effectivement, de la manière dont s'est vécue la transition, hein, le déni des républicains, de la victoire des démocrates, etc., je pense qu'effectivement, on n'est pas dans le contexte qui rend particulièrement optimiste. On aurait pu le croire, hein, parce qu'il n'y a rien qui empêche finalement ou qui empêcherait d'arriver à un plan de soutien aujourd'hui. Mais le contexte politique, manifestement, nous désespère un petit peu. Donc le 20 janvier, c'est trop tard, hein, et c'est pas le 20 janvier d'ailleurs, c'est le 20 janvier, c'est l'investiture. Il faut après arriver à proposer quelque chose. Ça peut être fait assez vite, mais ce sera pas fait le 20 janvier, manifestement.
Mais alors, je reviens aux questions que je vous posais à tous les deux au début de l'émission. Les marchés financiers, dont on le sait qu'ils sont souvent dans l'hyper-réactivité, qu'ils ont un caractère moutonnier, est-ce que le fait de devoir repousser, sinon au calendrier grec, du moins à une date ultérieure, un plan de soutien, est-ce que ça va pas les affecter, Véronique Riche-Flores?
Alors, oui. Probablement, enfin, tout dépend de deux choses, à la fois l'évolution de l'épidémie, hein, et la multiplication des mesures de confinement. On a vu tout récemment, hein, ces dernières 24 heures, un certain nombre d'États qui ont effectivement renoué avec des recommandations de confinement de la population. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Et puis, parallèlement, vous avez tout cet espoir, ou y compris très spéculatif, au sujet d'un possible vaccin à horizon rapide. Et on a vu, notamment ces derniers jours, hein, que les promesses d'un vaccin efficace ont eu un effet absolument spectaculaire sur les bourses mondiales. Donc les marchés sont partagés entre ces deux éléments, à la fois la crainte d'une épidémie qui fasse des dégâts à court terme et l'espoir qu'un vaccin arrive rapidement. Voilà un petit peu la situation. Alors bien évidemment, si on pouvait avoir un plan de soutien à l'économie, ça permettrait sans doute de rééquilibrer la balance dans un sens assez positif. Mais si on n'a pas, ça fait partie des éléments qui effectivement peuvent renverser la vapeur sur les marchés mondiaux, effectivement américains et mondiaux. Hein.
Jean-Baptiste Velu, Lubna Naki, dans son reportage, donne un chiffre. 98% de l'emploi à New York, c'est des petites boîtes, des petits commerces. Ça donne une image de l'économie américaine qu'on ne voit pas souvent dans les médias, qu'on ne perçoit pas souvent. L'économie américaine, c'est pas seulement Apple, Amazon ou Boeing.
Bien sûr, effectivement, et quand on pense au grand symbole de la puissance américaine, on pense rarement à cette économie des petites entreprises, et notamment en termes d'emploi, hein, et notamment sur les débats sur la mondialisation qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, font complètement abstraction de la réalité de l'économie américaine, qui est une économie de petites entreprises, une économie de services et une économie qui fonctionne aussi beaucoup à l'échelle locale, en dehors des grands groupes. Et donc, c'est aussi cet aspect de la crise qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect social, les conséquences donc sur les petites entreprises de distribution, hein, qu'on voit également en Europe et en France. Les conséquences pour des secteurs comme le tourisme, hein, on parle de New York, vous imaginez que tout ce qui est industrie de l'hôtellerie est frappé très sévèrement par cette crise. Donc voilà, New York, on l'oublie souvent, est aussi une ville de classe ouvrière, hein, traditionnellement. Alors bien sûr, avec les années, les décennies, l'augmentation des inégalités, on voit plutôt en New York l'immobilier, les grandes fortunes, mais c'est aussi à travers ces cinq boroughs, que ce soit à Brooklyn, à Queens, une classe populaire, hein, qui est centrale dans la culture new-yorkaise.
Véronique Riche-Flores,
oui, je rajouterai deux éléments. Alors sur New York, effectivement, mais enfin, rappelons-nous que la population la plus aidée de New York a essentiellement quitté la ville, et qu'effectivement, cette population, elle vit dans des immeubles ou des appartements luxueux, effectivement, mais elle consomme des services, elle achète des biens. Le commerce à New York est très important. Au niveau global, aux États-Unis, je rappellerai deux chiffres qui sont assez parlants. Vous avez plus de 50% des entreprises américaines qui sont des entreprises de moins de 4 salariés, de moins de 5 salariés, et 72% qui sont des entreprises effectivement de moins de 10 salariés. Donc ça donne effectivement une idée de la sensibilité de ce tissu des entreprises américaines, qui n'est certainement pas l'idée qu'on a quand on n'est pas aux États-Unis et qu'on entend parler des grands groupes, etc., qui ont d'ailleurs essentiellement leur main-d'œuvre en dehors des États-Unis. Donc effectivement, une population très impactée qui travaille très très largement dans les services, Les services, c'est la restauration, c'est le tourisme, ce sont les commerces, toutes ces activités dont on voit bien d'ailleurs en France à quel point elles sont impactées par la crise. Et c'est naturellement bien la même situation aux États-Unis.
C'était Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de l'économie américaine telle que Joe Biden va en prendre livraison en quelque sorte, telle qu'il essaiera de la relancer, de la réparer, pour reprendre un mot qu'il utilise. Deux invités dans cette émission, Véronique Riche-Flores, économiste indépendante, et Jean-Baptiste Velu, maître de conférence à l'Université Paris Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'économie et de la politique américaine. Véronique Riche-Flores, Trump hier comme Biden demain, pour relancer l'économie américaine, ils font appel à une recette qui est aussi celle des pays européens, qui est l'endettement.
Ah oui. Et oui, l'endettement est assez considérable, avec un niveau qui dépasse maintenant 100% du produit intérieur brut, et qui est bien parti pour avoisiner probablement 130 à 140% dans les 10 prochaines années, 140% du produit intérieur brut. Donc on est dans une espèce de spirale d'endettement qu'on retrouve d'ailleurs tout à fait au niveau du secteur privé, hein, avec des entreprises très endettées, des ménages également très endettés. Alors, tout ceci est permis tant que la Banque centrale, effectivement, finance beaucoup de cet endettement, et permet également tant qu'on a espoir que ce qui est rajouté en termes de dette constituera une source de croissance future. Et c'est le grand plan de Joe Biden. C'est pour ça que pour l'instant, les marchés ne sont pas très inquiets, parce qu'il y a beaucoup dans ce programme des démocrates, beaucoup d'investissements. La transition environnementale également, dont on attend des retombées en termes de croissance très importantes. Voilà. Est-ce que néanmoins Joe Biden et son équipe auront la capacité de développer ce programme? C'est un petit peu tout l'enjeu, parce que sinon, ça fait de la dette, type de la dette déployée par Donald Trump, hein, avec notamment cette réforme fiscale qui a coûté très cher, hein, et dont les retombées économiques sont pour l'instant essentiellement absentes.
Alors, il faut rappeler quels ont été les principaux points de ce programme économique à appliquer Trump, c'est-à-dire de baisse des impôts pour les entreprises et pour les ménages les plus aisés, n'est-ce pas, Véronique Riche-Flores?
Oui, tout à fait, et surtout pour les entreprises, avec effectivement l'idée qu'en allégeant la fiscalité des entreprises et en facilitant le retour des profits étrangers sur le sol américain également, l'économie américaine en profiterait grâce à de l'investissement et donc à de l'emploi. Ce qui a été à peine le cas, enfin, quand on suit l'économie américaine, on voit qu'effectivement la caractéristique des dernières années, c'est l'absence ou la très faible croissance de l'investissement productif. Les entreprises, notamment les grands groupes boursiers, ayant principalement profité de cette manne pour racheter leurs actions et pour distribuer davantage de dividendes que d'investir dans l'économie réelle. Le programme d'infrastructure qui était pourtant présent initialement dans le programme de Donald Trump n'a jamais été mis en place en réalité. Donc voilà, et on voit également, c'est intéressant d'ailleurs aujourd'hui de rappeler cela, il suffit pas d'avoir des programmes et des promesses, la mise en place et l'implémentation n'est pas toujours facile. Et là, on a vraiment un grand défi dans cette capacité ou non à enclencher un cycle d'investissement, parce que de là va dépendre l'évolution de la productivité et du potentiel de croissance américain, donc quelque part de leur capacité à rembourser leurs dettes.
Jean-Baptiste Velu, quand on voit que 70 millions d'Américains ont voté Trump, que beaucoup d'entre eux n'ajoutent pas foi aux déclarations de victoire de Biden, aux déclarations des responsables des États fédéraux qui confirment cette victoire, est-ce que ça n'est pas un handicap pour relancer l'économie, si il y a une telle défiance dans le pays, une telle fracture politique aux États-Unis? Est-ce que ça a un impact économique, cette fracture politique?
Oui, ça va être effectivement l'équation à résoudre pour Joe Biden. Je crois que ça a un impact direct sur la posture du Parti républicain. Et comme on l'expliquait tout à l'heure, on aurait pu croire pendant un moment finalement que Mitch McConnell, qui quand même connaît Joe Biden et qui a travaillé avec Joe Biden depuis des décennies maintenant, finalement lui concède la victoire et puis se soit prêt à collaborer, même si on reste pas naïf sur les divisions partisanes de l'administration Obama. Et en fait, on se rend compte que les républicains ne veulent pas jouer le jeu aussi parce qu'ils savent qu'ils ont leur électorat derrière eux. Donc, ce qu'on peut anticiper sur ces débats, notamment sur le plan de relance, c'est peut-être une posture du Parti républicain en supposant qu'il regagne le Sénat, ce qui n'est pas encore gagné, qui rejoigne finalement le cas de figure du début de l'année 2009. C'est-à-dire en pleine crise, alors que les États-Unis perdaient un demi-million de travailleurs par mois, les républicains n'ont pas du tout joué le jeu du plan de relance. Aucun républicain n'avait voté pour ce plan de relance sous Obama, avec un cynisme politique dévastateur, je dirais, mais finalement payant, puisqu'en 2010, les républicains avaient gagné regagner le Congrès, la majorité au Congrès, en disant, regardez, Obama était incapable de relancer l'économie malgré le retour de l'interventionnisme étatique. Donc c'est un scénario qu'il ne faut pas exclure, et déjà on voit beaucoup de débats sur les leçons qu'il faut tirer des années Obama. Est-ce que Biden, qui est quand même un pacificateur en chef, qui est quelqu'un, une figure bipartisane, est-ce qu'il va être aussi naïf qu'Obama, qui lui avait aussi parlé d'une ère post-partisane et qui finalement s'est un petit peu cassé les dents, si je puis me permettre, face à l'intransigeance des républicains?
Alors, les grandes lignes du programme économique de Biden, c'est quoi, Jean-Baptiste Velu?
Écoutez, moi ce qui me frappe, c'est quand même les ressemblances avec l'administration Obama. Certains parlent d'un troisième mandat de l'administration Obama sous Biden. On parlait tout à l'heure de la continuité en matière de conseiller économique. Si on regarde les piliers de son programme, on retrouve à certains égards des grands points du programme d'Obama, c'est-à-dire l'infrastructure, c'est-à-dire la révolution écologique qu'Obama avait quand même, et ça on oublie de le dire, aussi lancé à travers son programme de relance, qui était quand même le projet de loi le plus cher, le plus coûteux de l'histoire des États-Unis. On le voit aussi en matière d'investissement dans tout ce qui est recherche et développement, et notamment une politique d'innovation qui faisait cruellement défaut à l'administration. Trump, en raison de sa position anti-science, je dirais, sa guerre contre la science. Et puis, en même temps, alors ça reste quand même deux différences marquantes, à mon avis. La première, c'est l'héritage nationaliste pour caresser dans le sens du poil, je dirais, cet électorat conservateur. Et puis le deuxième point, c'est, je dirais, la conséquence de la poussée de la gauche aux États-Unis sous la candidature de Bernie Sanders, donc le besoin de se rallier à un certain nombre de priorités de la gauche. Donc ça va être très difficile pour Biden de ménager la chèvre et le chou et de gouverner à gauche et à droite sous une triangulation qui rappellera peut-être un peu les années Clinton.
Alors, difficile la situation économique l'est, le chômage a baissé depuis le pic de la crise économique en avril dernier, mais le terrain perdu n'a pas été totalement récupéré. Beaucoup de chômeurs, des millions de chômeurs encore, et ces chômeurs, nous partons à leur rencontre. Las Vegas, la ville des casinos, des hôtels au néon tapageur, vit aujourd'hui la crise du coronavirus. Certes, quelques-uns de ces grands établissements ont pu rouvrir leurs portes, mais pas assez pour redonner un emploi à tous les salariés qui ont perdu le leur. Au-delà, c'est tout l'État du Nevada qui souffre, puisque le tourisme lui apporte 51% de son produit intérieur brut. À Las Vegas, dans un Nevada quasiment ruiné, un reportage éco d'ici éco d'ailleurs, signé Marie Normand et Julien Boileau.
Le gel hydroalcoolique et les masques ont beau avoir fait leur entrée dans les casinos, la plupart des clients ne sont pas revenus. Malgré d'importantes promotions, le taux d'occupation des chambres tourne autour de 40% contre 90% en temps normal.
Nous nettoyons les chambres, nous sommes barmen. Il faut qu'on se débarrasse de cette maladie dès que possible.
Joconda Arguello-Klein est la trésorière de Culinary Union 226, le premier syndicat de l'hôtellerie à Las Vegas. La moitié de ses 60 000 membres est toujours sans emploi aujourd'hui.
On a eu la récession de 2009, la fusillade de 2017, mais on n'a jamais connu une telle situation.
Le syndicat du secteur s'est beaucoup impliqué dans la campagne présidentielle avec une opération massive de porte-à-porte en faveur du ticket démocrate.
Ces dirigeants que nous avons travaillé si durement à faire élire vont faire leur travail et on va travailler ensemble. Ça va être complètement différent. L'administration Trump, elle, était toujours en train de se battre contre les syndicats.
En attendant la reprise, la solidarité s'organise pour venir en aide aux familles en difficulté.
Ici, c'était une salle de réception avant. Mais quand tout a fermé, nous avons dû la fermer aussi.
Mark Jescott est le directeur exécutif de l'Académie culinaire de Las Vegas, chargé de la formation continue des employés du secteur. L'établissement s'est reconverti dans l'aide alimentaire depuis le début de la pandémie.
Donc, vous voyez ici, les gens sont en train de préparer des colis. À l'intérieur de ces sacs, il y a des flocons d'avoine, du riz, des pâtes, des haricots et quelques tortillas. Et puis là, des produits frais.
Plus d'un millier de colis alimentaires distribués chaque jour. En tout, 144 000 depuis le mois de mars, grâce à un système de drive-in. Ce jour-là, une trentaine de véhicules patientent en file indienne devant l'académie.
Beaucoup ont déjà ouvert leur coffre bien avant d'arriver ici. Et donc l'un des membres de notre équipe n'a plus qu'à placer la nourriture dans le coffre. Et la voiture part. Comme vous pouvez le voir, tout se fait sans contact.
Greg charge des colis dans les coffres du lundi au jeudi de 7h à 13h.
Je n'ai pas besoin d'aller à la salle de sport. C'est déjà du sport, ça.
Au début, les paniers étaient réservés aux membres du syndicat, des agents d'entretien surtout. Mais très vite, explique Mark Jescott, l'aide a été étendue à tous avec le soutien de l'État du Nevada et du comté de Clark qui entoure Las Vegas.
L'insécurité alimentaire a touché tous les codes postaux. Tous les secteurs ont été touchés.
Sur le Strip, la plus célèbre avenue de Las Vegas, les panneaux lumineux vendent des spectacles qui sont totalement à l'arrêt depuis le mois de mars. Joe Aldridge connaît bien ce secteur. Il a longtemps travaillé dans le monde de l'événementiel.
Tous les spectacles ont été annulés. Certains petits spectacles sont en train de recommencer, mais ils n'emploient pas grand monde. On a 35 à 40 000 personnes sans emploi. Et puis il y a tous les artistes aussi. Les droits au chômage ont expiré, et comme le Congrès n'est pas parvenu à un accord sur l'extension de ce plan d'aide, nous avons vraiment peur de voir des gens perdre leur maison. En ce moment, il y a un moratoire sur les expulsions, mais ça ne peut pas durer pour toujours.
Joe Aldridge explique que cette forte diminution de l'activité économique dans le plus gros comté de l'Arizona affecte aussi déjà d'autres services publics.
Las Vegas génère la plus grosse partie des recettes fiscales de l'État. Donc on a déjà demandé aux universités de prévoir une baisse de 12 à 15% de leur budget des deux prochaines années. J'ai bon espoir que Las Vegas rebondisse et redevienne la ville vibrante qu'elle était.
Un reportage signé Marie Normand et Julien Boileau à Las Vegas, dans l'État du Nevada aux États-Unis, dont nous parlons à l'occasion de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Deux invités dans cette émission, Véronique Riche-Flores, économiste indépendante, et Jean-Baptiste Velu, maître de conférence à l'Université Paris Sorbonne Nouvelle. Véronique Riche-Flores, est-ce que le programme économique de Biden répond aux aspirations, aux problèmes de ces gens qui perdent leurs emplois? Est-ce qu'il va pouvoir résorber le chômage avec le programme qui est le sien?
Écoutez, difficile de répondre à la dernière partie de votre question, mais du point de vue économique, je pense que le programme de Joe Biden est très précisément le plus adapté aux difficultés de l'économie américaine, à cette perte de croissance de ces dernières années. Donc il y a un volet social qui est indispensable et tout particulièrement aujourd'hui, effectivement, et notamment avec un rétablissement et un renforcement de l'Obamacare, cette réforme de la santé qui a quand même été largement démantelée, y compris tout récemment encore, par Donald Trump. Il y a également sur beaucoup de points du programme une correspondance correspondance en création d'emplois. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est assez central dans le programme, qu'il s'agisse des dépenses d'infrastructure, avec qui sont constamment accompagnées au moins, de propositions de création d'emplois, d'ambitions de création d'emplois, dans la santé également. Dans la construction, il y a un grand programme de logements, de construction de logements, avec 1,5 million logements qui seraient construits. Et je crois que là, on adresse un sujet qui est absolument fondamental aujourd'hui aux États-Unis. Donc, effectivement, l'économie américaine est parmi, en termes de comparaison et de standards, une économie, effectivement, où l'État, le niveau global des infrastructures est très défaillant. C'est d'ailleurs pour ça que, y compris Donald Trump, avait dans son programme initial un vaste programme de développement et d'amélioration de ces infrastructures qui n'a pas été mis en place. Donc, il y a, je pense, effectivement, un programme relativement équilibré. Et quand on regarde l'équivalent en termes fiscaux, puisqu'on pourrait se dire, oh là là, mais ça s'accompagne forcément d'un durcissement considérable de la fiscalité. À ce stade, je dirais que pour l'instant, les propositions sont relativement équilibrées. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une proposition de remonter l'imposition sur les bénéfices des sociétés. Du côté de la taxation des personnes, des ménages, là encore, on n'a pas de mouvement ou de proposition de très forte hausse de la fiscalité, si ce n'est une taxation effectivement sur les revenus du capital. Bien évidemment, c'est un changement de contexte radical par rapport aux années Trump, hein, mais ça reste des propositions qui sont relativement soutenables. Donc finalement, l'ensemble du paquet me semble assez bien correspondre effectivement aux difficultés actuelles. Alors bien évidemment, j'ai oublié de mentionner la hausse du salaire du minimum fédéral
à 15 $.
Voilà, donc certains pourraient y voir un risque inflationniste majeur, ce qui est probablement pas le cas, parce qu'en l'occurrence, ce salaire de 15 $ est déjà appliqué, ce minimum de 15 $ est déjà appliqué dans beaucoup de secteurs en l'occurrence, et cette remontée proposée ne devrait pas créer de choc majeur pour les entreprises et pour l'inflation. Donc j'ai plutôt l'impression, moi, là, qu'on a quelque chose, d'ailleurs, dont on pourrait espérer que l'Europe s'inspire de notre côté.
Jean-Baptiste Velu, dans les yeux des Américains, c'est un programme de gauche. Bon, on sait bien que entre l'Europe et l'Amérique latine, l'Afrique et les États-Unis, il n'y a pas les mêmes grilles de lecture sur ce qu'est la gauche. Est-ce que aux États-Unis, c'est considéré comme un programme de gauche?
C'est un modèle, comme l'expliquait la collègue, un modèle de croissance inclusive, donc avec des volets sociaux qui, à mon sens, reflète l'étroite collaboration entre Sanders et Biden. Biden a voulu...
Bernie Sanders, donc le leader de l'aile gauche, justement, du Parti démocrate. Oui,
mais merci de préciser. Donc Biden, fin tacticien, a voulu éviter voilà ce qui s'était passé en 2016, c'est-à-dire un rejet de la gauche, ou du moins une ambivalence de l'aile gauche du parti face à une candidate Hillary Clinton qu'il jugeait trop proche des intérêts financiers et d'une position centriste. Donc je crois que le programme de Biden reflète à certains égards ce positionnement, c'est-à-dire un programme de centre-gauche. Alors il ne va pas aussi loin je dirais que les positions de la gauche sur des questions écologiques, notamment en termes de budget alloué la gauche voulait allouer au Green New Deal. Mais il me semble que beaucoup des priorités de la gauche depuis une dizaine d'années, que ce soit le salaire minimum à 15 $, que ce soit un investissement majeur dans la lutte contre le changement climatique, que ce soit une politique d'éducation, notamment l'accès à la maternelle, une politique pour l'enseignement supérieur. Donc à beaucoup d'égards, il s'agit de priorités donc que la gauche défend aux États-Unis depuis longtemps. Donc après, voilà, il s'agit d'un programme. En pratique, il va falloir transiger. Donc bien sûr, ça dépendra de la majorité au Sénat, mais ça dépendra aussi, voilà, certains, à mon avis, certains, même si les démocrates étaient amenés à gagner à remporter l'élection au Sénat, je pense qu'il y aurait un certain nombre de sénateurs démocrates centristes qui diraient, bon oui, là, vous allez trop loin, donc il y aura forcément des transactions et des compromis.
Alors, parmi les nombreux problèmes sociaux auxquels va devoir s'attaquer le président élu lorsqu'il entrera en fonction le 20 janvier prochain, il y aura le problème du logement, Véronique Riche-Flores, vous y faisiez allusion il y a quelques instants. Conséquence de la crise, un Américain sur cinq n'arrive plus à payer son loyer. Des milliers de collectifs de locataires ont essaimé dans tout le pays. L'un des plus puissants se trouve à Kansas City, dans le Missouri. Cette organisation citoyenne ferait pression sur la municipalité de Kansas City et compte bien influer sur la politique de la future administration fédérale. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Carlotta Morteo à Kansas City.
Pas de justice, pas de paix.
En ce 15 octobre glacial, 150 locataires en situation précaire, membres de Casey Tenants, ont bloqué les portes du palais de justice où les expulsions sont prononcées. Ils témoignent publiquement de leur situation.
Mon arrière-grand-mère était esclave. Ma grand-mère était pauvre, ma mère était pauvre. Moi, je suis pauvre. J'ai un enfant de 8 ans, il est pauvre. J'ai été expulsée de multiples fois. Comment est-ce qu'on va se sortir de ce cycle? Ils s'en foutent de nous. Ils n'ont aucun cœur, aucun remords.
Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que ça fait 6 mois que je me sens comme une mère indigne qui n'arrive pas à payer les loyers. J'ai traversé le Covid en essayant de survivre.
Beaucoup sont afro-américains, tels que Tiana Calwell, membre de la première heure.
Les injustices raciales et les injustices économiques sont liées, et ça commence avec le logement. C'est la base. Comment avancer quand tu n'as nulle part où dormir?
Pourquoi les expulsions touchent-elles tout particulièrement les Noirs? Parce qu'ils sont les principaux bénéficiaires du logement social aux États-Unis, qui est géré par des entreprises privées, mais pour lequel les gens ont accès à certaines aides de l'État. L'offre de logements à faible loyer étant insuffisante dans le pays, les bailleurs ont toujours la garantie de trouver un nouveau locataire. Alors malgré un moratoire qui doit empêcher les expulsions jusqu'à fin décembre en cas d'impayé, les bailleurs ont trouvé d'autres moyens pour expulser. C'est ce que nous explique Jenna Manley, victime d'expulsion, aujourd'hui l'une des têtes de file de Casey Tenants.
Le moratoire pose plein de problèmes. Déjà, il n'est valable que si tu ne peux plus payer ton loyer. Donc, même si tu remplis le formulaire, que tu expliques pourquoi, les bailleurs vont venir rôder autour de ta maison pour te trouver des noises. Ils vont essayer de prouver que tu t'es acheté une voiture, vont te demander les factures de tes courses ou te dénoncer si tu as laissé ta poubelle sur le balcon, puisque ça peut être une raison pour virer les gens dans les contrats. Et ils mentent, puisqu'ils savent que tu vas devoir te payer un avocat et que beaucoup ne peuvent pas se le permettre. Et puis l'autre problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas que ne pas être expulsé, ce n'est pas automatique. Il faut remplir un formulaire.
Surtout, les loyers seront dus en janvier dans tous les cas. Pas sûr que les gens auront rattrapé leur perte de revenus. Ils seront alors endettés de plusieurs mois d'impayés. On prévoit des centaines de milliers d'expulsions en plein hiver.
Notre permanence téléphonique reçoit une douzaine d'appels par jour de locataires qui font face à des expulsions en ce moment même. Des gens qui n'ont plus de travail depuis des mois, qui ne savent plus où aller, qui vivent dans leur voiture.
D'où une demande très simple de Casey Tenants à la nouvelle administration Biden: éponger les loyers non payés de ces derniers mois et bien plus encore. Tara Argouvert est la fondatrice de cette organisation classée très à gauche.
Le marché privé a totalement échoué. 12 millions de foyers aux États-Unis avant la pandémie payaient déjà plus de 50% de leur salaire en loyer. 500 000 personnes vivaient déjà dans la rue, sans parler des sans-domicile fixe. Il faut qu'on pense les choses différemment. On pense qu'il faut inscrire le droit au logement dans la loi, en faire non plus un bien marchand, mais un bien public, en construisant des millions de logements publics et sociaux à travers le pays.
Pendant les primaires démocrates, Joe Biden n'avait pas de plan pour le logement. Depuis, il a intégré une bonne partie des idées du programme de Bernie Sanders et promet d'investir 640 milliards de dollars sur 10 ans pour aider les Américains les plus défavorisés à accéder à des logements abordables, tout en luttant contre les discriminations raciales qui conduisent à de nouvelles formes de ségrégation urbaine.
Un reportage signé Carlotta Amorteo, Jean-Baptiste Velu. 640 milliards promis dans ce programme Biden sur 10 ans, c'est aussi un problème racial qui se pose, de ségrégation quasiment. Les Noirs américains sont malgré tout très défavorisés économiquement. Est-ce que Biden va pouvoir répondre à ce défi ?
Alors oui, effectivement, je crois que c'est un enjeu important pour la, et c'est une, cela fait partie, à mon avis, il y a une dynamique électorale forte, à mon avis, dans la mesure où Biden a adopté une partie du programme de Bernie Sanders. Il faut savoir que les Afro-Américains ont voté en grande majorité pour les démocrates, à 86%, mais étonnamment, Trump a obtenu un peu plus de soutien des Noirs, notamment les hommes, qu'en 2016. Donc c'est quand même un paradoxe. Il me semble que, au vu de ce vote, le New York Times il y a quelques jours titrait voilà, les Noirs ont soutenu Joe Biden, now what? Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va pouvoir enfin tenir ses promesses? Qu'attendent les Afro-Américains de Joe Biden? Donc bien sûr,
des logements, apparemment, des logements.
La question du logement est bien sûr centrale. Il y a la question aussi de la justice et de la police. Donc on en a beaucoup entendu parler au cours des 6 derniers mois. Sur le logement, est-ce que ça peut vraiment faire la différence? Moi, il me semble que bien sûr, il faut changer de logiciel et qu'il y a énormément d'inégalités et de discrimination face au logement. Donc le Joe Biden va pouvoir remettre en place quelque chose qui avait été détricoté par l'administration Trump et qui concernait l'application de mesures contre la discrimination raciale dans le logement. Mais à mon sens, ce qui va être déterminant pour les Afro-Américains des villes comme pour les travailleurs de l'industrie, c'est la politique de la pandémie. Et c'est la politique de la pandémie est une politique économique et une politique sociale. Tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes de conjoncture économique, il me semble que la pauvreté va continuer à augmenter. Forcément, les pauvres sont plus souvent les Noirs américains et les Hispaniques que la classe moyenne blanche et urbaine.
Véronique Riche-Flores, c'est votre sentiment également ?
Oui, incontestablement. Je pense que cette pandémie touche particulièrement les familles les plus modestes, les mini-jobs, les emplois peu qualifiés. Maintenant, si on revient sur la problématique du logement, il y a une double problématique. Il y a d'abord un aspect social absolument majeur. Et ce qui s'est passé, en fait, depuis la crise de 2008, c'est que le marché du logement est devenu un marché hyper spéculatif. Il l'était déjà avant la crise, mais avant la crise, on avait eu une montée en puissance du taux de propriétaires. Donc on pouvait considérer que les Américains étaient propriétaires de leur marché immobilier quelque part. C'est plus du tout le cas depuis la crise, où l'Américain moyen a perdu le droit d'accès quelque part à la propriété parce que les logements sont devenus beaucoup trop chers, parce que la capacité à s'endetter a pour beaucoup disparu. Et vous avez beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas forcément uniquement des investisseurs professionnels, y compris des Américains plus favorisés qui ont pu profiter du très bas niveau des taux d'intérêt pour investir dans l'investissement locatif. Donc il y a une espèce de scission absolument profonde dans la société américaine qui s'est exacerbée, et notamment à partir de ces changements du marché immobilier. Donc il y a là un vrai souci. L'immobilier, le prix moyen de l'immobilier a augmenté de 40% depuis le précédent pic de 2007. Vous vous souvenez qu'on parlait de ce niveau comme un niveau totalement extravagant. Aujourd'hui, nous sommes 40% au-dessus, donc des niveaux qui sont complètement inaccessibles pour la grande majorité. Et comme il s'agissait d'investissements, pour la plupart d'investissements locatifs, c'est vrai que ces investisseurs voulaient du rendement, donc des hausses de loyers qui ont été beaucoup plus rapides que celles des salaires, qui aboutissent à la situation actuelle où beaucoup de personnes ne peuvent pas payer leur loyer. Alors encore plus, bien évidemment, avec la crise du Covid et les pertes d'emploi.
Merci Véronique Richlores, merci Jean-Baptiste Velu. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez nous réécouter ou conseiller à vos proches de le faire en allant sur l'application Pure Radio de RFI de votre smartphone ou sur la page de l'émission ou sur le site www.rfi.fr. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI.